Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es ce Dieu que nous pouvons appeler, déranger même. Merci parce que tu es accessible. Seigneur, je te prie pour tout ce que tu as, qui est monté vers toi ce matin, tout ce que nous t'avons dit, tout ce qu'il y a dans nos cœurs, afin que tu poses ta main sur nos frères et sœurs, ceux qui ont besoin d'une délivrance, ceux qui ont besoin d'un encouragement, ceux qui ont besoin d'une intervention de ta part, là où il n'y a qu'un passe humaine, et là où nous sommes sans force. Toi, tu es là, Seigneur, et je veux te bénir pour cela. Conduis maintenant, conduis-nous dans le partage de ta parole par ton Saint-Esprit et remplis nos cœurs de ta présence, dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne me suis pas concerté avec Philippe pour le thème de ce matin, mais il y a beaucoup de choses qui vont revenir. Donc, c'est peut-être même pas la peine que je parle. Mais bon. Aujourd'hui, c'est la fête des mères et je ne vais pas vous parler de la fête des mères, mais je souhaite, plus qu'aux mères, à toutes les femmes, une bonne fête. Et j'ai souvent remarqué la souffrance d'une maman, face à un de ses enfants ou son enfant qui rencontre de graves problèmes. Et j'ai remarqué que elle veut tellement faire et parfois elle est dans l'incapacité de faire. Et j'imagine aisément le souci de Dieu qui lui est dans la capacité de faire. Quand nous, ces créatures, rencontrons des problèmes, et le plus terrible de ces problèmes, c'est le péché, n'est-ce pas ? Quel problème, hein ? Oh là là ! Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de la puissance du péché, afin qu'on ne néglige pas sa portée, et surtout l'antidote que Dieu apporte à ce péché. Alors, quelle est la vision biblique du péché ? Vous savez, toutes les civilisations ont une explication sur la présence du mal dans ce monde, hein. Mais la Bible va nous raconte une histoire précise. La première des choses que nous pouvons dire, alors c'est pas une étude exhaustive sur le péché, hein, il y aurait beaucoup à dire, et certainement vous pourriez aussi beaucoup partager. Mais la première des choses est que le péché est un désordre profond. C'est pas seulement une égratignure ou un membre qui est cassé, qu'on répare. Non, non, c'est vraiment quelque chose de profond. Et le péché a été produit par le comportement de l'homme qui a causé ce désordre dans un monde parfait que Dieu a créé. Alors ça, c'est important parce que on dit que le monde est en évolution, vous savez, mais en réalité, il est en désévolution plutôt qu'en évolution. La preuve, c'est que la théorie de l'évolution, elle est coincée quand on parle d'une évolution chromosomique. Qu'on nous montre une évolution chromosomique positive. Elles sont toutes négatives. Véritablement, dans Genèse 1 et 2, tout a été créé parfaitement. Et le cataclysme est venu à partir de Genèse 3. Que s'est-il passé ? Le psaume 66, verset 7, que nous avons lu ce matin. Eh bien, dans la version Semeur, c'est « Que les rebelles ne fassent pas les fiers ». Mais dans la version de Second, c'est « Que les rebelles ne s'élèvent pas ». Que s'est-il passé ? À un moment donné, l'homme a voulu s'élever devant Dieu. Il a voulu prendre sa place. Et les premiers chapitres de l'Ancien Testament nous racontent comment cette harmonie de la création va subir un terrible chaos lié à la désobéissance, orchestrée par Satan, qui a été la première créature qui s'est rebellée contre son créateur. Alors pour avoir une idée de cette tragédie, eh bien l'hébreu va employer les mots comme pour désigner le péché comme manquer le but. En fait, imaginez, vous appelez un artisan chez vous qui va faire un super travail et qui vous fait un truc absolument horrible. Il a manqué son but. Hein. Ça a été raté, c'est ça le péché. L'hébreu dit tout ce qui est tortueux, compliqué à redresser, tout ce qui est aveuglé. Et le grec, bien oui, donne une définition plutôt morale, ce qui passe par au-dessus la ligne morale et quelque chose qui tombe à côté. Merci beaucoup. Quelque chose qui tombe à côté. En réalité, le péché, c'est quelque chose qui n'avait pas sa place et qui nous fait chuter. Alors, il y a une idée de cassure, irréversible. Il y a des choses qu'on ne peut pas ranger, vous êtes d'accord ? Un enfant qui naît, qui manque d'oxygène, pendant quelques minutes, aïe, c'est irréversible. C'est catastrophique. Le péché est omniprésent dans le monde. Et quand j'entends des humanistes, et je respecte leur désir de voir les choses s'arranger, dire qu'ils vont pouvoir arranger quelque chose, mais c'est faux. Parce que le problème du péché est là. Il est ancré, il est omniprésent. Le péché va donc occasionner un désordre qui va se répandre et va conditionner l'humanité. Rappelez-vous, avant la chute, Dieu avait donné un mandat à l'homme. Et dans ce mandat, il est dit que Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa, il les bénit. Et que dit Dieu ? Avant que l'homme chute, il dit, voyez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur terre. En fait, voilà la mission de l'homme, et cette mission a été infectée par le péché. Et ça a créé des désordres dans son comportement. Ce que je veux dire par là, c'est que, je ne sais pas si vous comme moi, on entend souvent dire que le problème du monde se résume en trois points. Hein ? Le problème des richesses, une mauvaise répartition, l'abus de pouvoir et la perversion sexuelle. Vous avez entendu ça déjà, non ? On dit voilà les trois problèmes du monde. En réalité, je pense que le problème du monde vient du fait que ce mandat est contaminé et que l'homme a un grand problème, c'est qu'il continue à vouloir dominer, mais pas de la bonne manière. Et la richesse, le pouvoir et le sexe, eh bien, sont les meilleurs moyens pour assouvir son désir de puissance, de toute puissance. Parce que l'homme se croit capable de remplacer, de réparer ce que Dieu a dit, c'est irréparable, irréversible. Voilà que nous sommes contaminés. Et ce qui est surprenant, c'est que même les écologistes les plus virulents disent que l'homme est le seul être vivant, le seul vivant qui détruit son habitat. Vous détruisez votre maison, vous ? Non, ça se fait pas, sauf pour faire des travaux, hein. Aucun animal sur Terre ne détruit sa maison. L'homme est le seul vivant qui détruit. Pourquoi ? Parce que le péché est rentré dans son cœur. Je me souviens, vous savez, des fois, il y a des prières dont on se rappelle, je ne sais pas pour vous, hein. Comme ça, on se dit, ah tiens, ça m'a marqué. Je me souviens, il y a des années, quelqu'un avait prié ici, je ne le citerai pas, qui disait, Seigneur, je suis effaré de constater la présence du péché dans ma vie. Quand j'étais jeune, je pensais que ce n'était pas important, mais là, je m'aperçois que c'est de plus en plus grave. Je pense qu'avec la maturité chrétienne, on se rend compte que le monde va de plus en plus mal. Et ça, c'est terrible. Alors voilà que le péché est un désordre profond. Le péché aussi est dévorant et vorace. Il en veut toujours plus. Nous, on l'oublie, hein, on pense que c'est juste un écart et puis on revient à la case départ. Non, non, le péché en veut toujours plus. Il est insatiable et boulimique. L'Ecclésiaste, Salomon, a dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Je me souviens, une fois, je parlais à des jeunes et j'avais, qui étaient non convertis, hein, donc, et j'avais parlé de ce verset. Je vais peut-être raconter cette histoire. Et puis, il y en a un qui m'a dit, c'est tout à fait vrai. Et il m'expliquait que son beau-père avait acheté une clinique. Et le but de son beau-père était de devenir propriétaire d'une clinique. Il joue au Monopoly. Et une fois qu'il a obtenu cela, il en voulait une deuxième, etc. Et quand il a entendu que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, il a tout de suite compris. Mais est-ce que nous avons compris que celui qui aime la médisance n'est pas rassasié par la médisance ? Celui qui aime l'impureté n'est pas rassasié par l'impureté. Celui qui aime la violence n'est pas rassasié par la violence. Parce que le péché est boulimique. Il nous dit, il t'en faut plus. C'est comme ça que les addictions naissent. On en veut plus. On veut notre dose. Voilà ce qu'est l'homme. Proverbe 30, verset 15. La sangsue a deux filles. Donne, donne. Une chose insatiable qui ne dit jamais assez. Ah. Parfois, on peut se poser la question, pourquoi à un moment donné, la situation tourne au vinaigre ? Hein, quand on lit le livre des rois, ou le livre des rois, il a fait ce qui était bon aux yeux de Dieu. Et nous, on dit, pourvu que ça continue ! Mais il y a toujours un problème à un moment donné. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Salomon, lui, voulait vivre plus d'expérience, il en voulait plus. Alors c'est une photo qui a été prise il y a... Non, pas du tout, c'est un dessin. Hein. Il en voulait toujours plus. Tout allait bien jusqu'à... Eh bien, jusqu'à ce que ses femmes le détournent de Dieu. Hein. Un roi 11, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Mais Salomon, ça allait bien pour toi. Il avait la sagesse en plus. Comment est-ce arrivé ? Parce qu'en réalité, même avec la sagesse, on ne peut pas forcément réfréner les passions qui disent « j'en veux plus, j'en veux plus ». Alors Salomon se rallia au culte d'Astarté, divinité sidonienne, à l'abomination des Ammonites. Vous savez, les Ammonites égorgeaient leurs enfants pour leur Dieu en espérant qu'il allait avoir une année fertile. Aïe! Il est dit que l'Éternel fut irrité contre Salomon. Alors, le livre des rois s'est rempli de ça. On dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce? À quel moment le gars il s'est dit, tiens, je vais pécher contre Dieu? Ozias. Ozias, lui, c'est quelqu'un qui voulait toujours plus de pouvoir. Tout allait bien dans la vie d'Ozias jusqu'à ce que... Eh bien, il rentre dans le temple, il dit, c'est moi qui va porter le parfum. Et les sacrificateurs disent, non, c'est pas ton boulot ça, c'est pas ta fonction, reste dans ton cadre, mais il en voulait plus. Et il est dit que la colère s'est emparée d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, c'est dans 2 Chroniques 26, et comme il se mettait en colère contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Aïe! En présence des sacrificateurs près de l'Éternel. Et les sacrificateurs vont le mettre dehors, et Ozias, eh bien, mourra de cette lèpre. Et il vivra dans un lieu isolé. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que? Parce que le péché nous dit, j'en veux plus. Que dire d'Ézéchias, l'homme qui voulait la gloire? Vous savez, Ézéchias, il est bien. Ah, c'est vraiment un brave gars. Et il a des problèmes. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et Dieu a dit à Isaïe, écoute, tu vas voir Ézéchias, et tu dis, ça y est, c'est fini. Il est arrivé à la fin de sa vie. Ézéchias se lamente devant Dieu. C'est bizarre comment on est docile quand on a des problèmes, hein, des fois. On est là, on écoute Dieu, on est prêt à tout. Oui, souvent. Hein. C'est bizarre comment on se sent hein, en connexion, là. Tout allait bien pour Ézéchias. Et que fait Dieu? Il voit les larmes d'Ézéchias, il dit, c'est bon, je lui donne un forfait de 15 ans. C'est pas mal. Hein. Tout allait bien pour lui jusqu'à ce qu'il guérit de sa maladie. Et une fois qu'il a guéri, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des Babyloniens qui viennent, qui le félicitent, et lui ne rend pas gloire à Dieu. Ouais, bon, je m'en suis bien sorti quand même, hein, j'ai eu de la chance, hein, les gars. Mais pas du tout. Et il est dit que Dieu s'est fâché, parce que c'est lui l'auteur de la guérison. Pourquoi? Parce que le péché a dit à Ézéchias quelque part, écoute, tu as besoin de plus de gloire, que les gens te reconnaissent. Quel exploit d'avoir été guéri, Ézéchias. Raconte tout ça. Ézéchias a montré tous les trésors d'Israël sans rien cacher. Après sa mort, ça a été le désastre pour le peuple. Oui, le péché est vorace, il est boulimique. Il y a un autre point aussi. Le péché est une puissance attractive. L'attraction du mal... Hein, il faut le rappeler ça. L'attraction du mal est toujours plus forte que l'attraction du bien. Toujours. Pourquoi? Parce que notre monde est enfermé là-dedans. Si nous invitons les gens à faire le bien, ou les jeunes, tout. Vous savez, les jeunes, c'est interdit d'eux. À partir du moment où c'est interdit, il faut le faire. Hein, voilà. Mais c'est parce que c'est en nous, c'est ancré. Et le bien que le péché procure et qu'il promet, parce que le péché promet du bien. Sinon, on ne pécherait pas, non? Si ça devait à chaque fois nous rendre tristes et nous faire souffrir, on arrêterait de pécher. Mais au contraire, il nous montre le bon côté. Mais le problème, c'est que le bien qu'il procure va tourner au mal. Et ça, j'allais presque dire, c'est la triste, mais véritablement triste expérience de David. Regardez comment ça a commencé. Il est sur sa terrasse, et puis un regard, et puis il y a une jolie femme qui est là. Et puis elle est sur sa terrasse, elle aussi. Et elle prend, enfin, elle fait son ablution de purification. Et puis, ben, le regard de David, c'est pas mal quand même, hein. S'il avait eu un téléphone, il aurait certainement filmé, hein. La convoitise, ah, c'est bien. Et puis, il est roi. Il peut appeler cette femme à venir chez lui. Et c'est ce qu'il fait. Voyez? Et puis voilà que ben, l'attraction et puis une grossesse non désirée. Ah, il y a un problème là. Alors il a une super idée. On va inviter le mari qui est au front et on va faire voilà croire au mari que ben, c'est un petit prématuré de 8 mois. Hein. Mais le mari, il est fidèle à Dieu. Et ça énerve David. Rendez compte, David. Hein. L'attraction du péché. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est déçu. Il va programmer le meurtre de Ouri. La puissance attractive était sous ses yeux, là, et ça l'a mené à un endroit où il ne voulait plus. Géasi, lui, a désiré les richesses que Naaman avait promises à Élisée. Élisée a dit, j'ai pas besoin de tes richesses, hein. Je suis pas un médecin qui prend un honoraire pour guérir quelqu'un. En tout cas, c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. Et puis il renvoie Naaman, vous rappelez l'histoire. Et puis Géasi dit, oh, le gars, il a, hein, ça m'intéresserait, moi. Hein? L'attraction du péché. Ça me rappelle une histoire que je raconte souvent aux ados. L'histoire du scorpion et de la grenouille. Hein, vous connaissez cette histoire? Non, vous ne la connaissez pas, c'est bien. Vous la connaîtrez dans 5 minutes. C'est sur le bord d'une rivière, un scorpion qui souhaite traverser. Et puis, il y a une grenouille qui est là. Alors, et le scorpion, il dit à la grenouille, les enfants, « Hey, la grenouille, viens voir, viens voir !» Et la grenouille, elle se méfie, parce que le scorpion, ça pique. Hein. Alors, la grenouille, elle dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Et le scorpion lui dit, « Aide-moi, s'il te plaît, à traverser la rivière !» Alors, la grenouille, « Non, mais je suis pas folle, hein. Je suis grenouille, mais pas folle hein. !» Et je peux pas t'aider, parce que tu vas me piquer. Et le scorpion dit, « Mais t'imagines si je te pique, je meurs aussi, je sais pas nager !» Et sur cette pensée, la grenouille dit, voilà la bonne aubaine, c'est vrai. Alors la grenouille décide de prendre le scorpion sur son dos. Alors là, elle fait du dos crawlé, cool. Hein. Et au bout d'un moment, en plein milieu de la rivière, le scorpion pique la grenouille. Et la grenouille, elle est choquée. Elle dit, pourquoi tu as fait ça? Et le scorpion a dit, c'était plus fort que moi. Eh oui. Pourquoi tu as fait ça? Ben, c'est plus fort que nous. Voilà le péché. Personne n'est épargné. C'est quelque chose, hein? Tous ont péché. Pas un, pas deux, pas trois, pas 99,9% de la population, mais tous ont péché. Parce que nous sommes tous issus d'un seul homme. Et le péché, par qui le péché est entré dans le monde? Oups. Voilà. Est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort, ainsi la mort est passée sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et ça, c'est une réalité. Alors, on a l'impression que plus nous luttons contre le péché, et plus il résiste. Plus nous y pensons, et plus il nous obsède. Et Salomon a reconnu cela, l'univers, il a constaté l'universalité du mal et les problèmes insolubles de la vie. Hein? Pour lire l'Ecclésiaste. Alors, oui, le péché a une puissance attractive, mais le péché aussi impacte. Pardon, on va revenir. Oups. Voilà, impacte d'autres domaines. Ah. Vous savez, le péché, c'est pas cloisonné, hein. On pêche dans un domaine, puis ça n'a pas de relation avec l'autre, etc. Et j'ai été très surpris de l'effet domino que le roi David a subi, a expérimenté. Que se passe-t-il juste avant l'histoire de Bathsheba, hein? En fait, l'armée avec Joab était en train de vouloir s'emparer de Rabba, une ville des Ammonites. Hein? et Ammonite. Et puis que fait David? David n'est pas au combat, il est chez lui. Alors c'est intéressant de voir que quand on n'est pas dans la communion fraternelle, on devient plus fragile. Et David est tombé dans le péché, mais qu'est-ce qui se passe après? Après, il est dit que Joab dit à David, écoute, nous avons pris la ville, mais c'est à toi de donner le coup de grâce pour que les gens te voient. Hein? Voilà, ça c'est vraiment de la com. Hein? Il y a beaucoup qui travaillent, et puis le gars, il vient, bon, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ok. Donc David est appelé. Alors ce qui est surprenant, c'est que dans certaines versions, celles que nous avons, il est dit que David assembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Il combattit contre Rabba et l'a pris. Alors, ces versions-là, la plupart des versions, ont ce texte. Quant au peuple donc, qui s'y trouvait, David les fit sortir et les affecta aussi aux herses de fer, aux haches de fer, et il les condamna aux moules à briques. Il traita de même toutes les villes des Ammonites. Ok ? Dans cette traduction-là, nous avons l'impression que David est venu et qu'il a fait des esclaves de ces habitants de Rabba, qui ont été assez compliqués dans sa stratégie. Mais quand nous regardons d'autres versions, et je pense que cette traduction est plus juste, mais moins catholique, vous allez comprendre. David fit sortir le peuple qui s'y trouvait, et il les mit sous les scies, sous les herses de fer, sous des haches de fer, et les fit passer par un four de briques. Vous avez compris la nuance? Sanglant. Que se passe-t-il quand nous péchons? En réalité, ça atteint des domaines. Nous manquons de patience, nous risquons de devenir encore plus injustes, et plus colériques, et plus, et plus, et plus. Ne pensons pas que c'est juste un domaine privé où je pêche, et voilà. Ça a une répercussion dans tous les domaines de notre vie. Et parfois des répercussions. Et je pense qu'il y avait une colère dans le cœur de David qui n'a pas su épancher devant Dieu. Le péché laisse des traces et bousille nos relations. Et on verra que dans la vie de David, c'est suite à ce péché qu'il a du mal à être juste et à appliquer la justice de son fils qui a violé sa fille. Et puis de son fils qui a tué le violeur. Et David est dépassé. Voyez l'impact du péché. Hébreux 12:1 nous dit que nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, on a déjà, la Bible nous sert à cela, à comprendre l'impact du péché. Rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Eh oui. Le péché est un désordre profond, le péché est dévorant. Il est boulimique, il est une puissance attractive et il a un impact dans d'autres domaines. Et si nous avions, je ne sais pas si vous avez des codes quand vous lisez la Bible, hein, mais si vous aviez le code rouge pour les péchés, la Bible est remplie de surlignages rouges. C'est pourquoi quand vous offrez une Bible, expliquez bien aux personnes qui reçoivent la Bible, t'as peut-être jamais lu, hein, qu'il s'agit de la vraie description de Dieu sur la nature humaine. Sinon, elles ne vont pas comprendre comment un gars, il a plusieurs femmes, un autre, il égorge un tel, etc. Il ne comprend pas. Et c'est bon de lui expliquer, ça c'est les conséquences du péché, et Dieu est honnête. Il nous montre les conséquences telles qu'elles sont. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche avec beaucoup de culpabilité et de désespoir. À dimanche prochain, et c'est pas moi qui prêche. Bon. Alors, qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que cette vision biblique sur le péché va susciter en nous? De la culpabilité? Au point d'être dans le désespoir? Oui, peut-être. Le fatalisme, c'est comme ça, on peut rien y faire, hein? Voilà, débrouillez-vous. Tu vas venir à relativiser. Ou l'indifférence. Tu sais, le péché, qu'est-ce que c'est, hein? Ça, c'est juste une notion de doctrine religieuse, etc. Ou peut-être la révolte. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette invention de la religion pour servir les hommes? Je me souviens, il y a quelques années, vous savez, dans les années 1947-48, Staline avait fait un grand programme pour repeupler les pays. les régions en URSS, Union soviétique. Bon, c'est quelque chose, l'Union soviétique. Hein. Et il y avait des propagandes dans les cinémas pour les Arméniens. Et quelqu'un me racontait que, alors, on voyait de belles grappes de raisins, etc., pour accueillir les gens qui allaient venir en URSS hein, et repeupler cette région de l'Arménie. Et quelqu'un me disait que son grand-père à Marseille avait assisté à cela, et les gens étaient tellement enthousiastes de ce qu'ils voyaient qu'on n'entendait même pas le commentaire qui était à fond au cinéma. Et beaucoup d'Arméniens sont allés en URSS. Et ils ont été terriblement déçus. Et je me souviens que il y a quelques années, je parlais avec une vieille dame et je disais, elle me racontait cette période de l'histoire. Et je dis, mais pourquoi votre famille n'est pas allée en Union soviétique? Elle m'a dit une chose qui m'a marqué. Sa mère, qui était chrétienne, a dit, comment peut-on vivre dans un pays qui rejette Dieu? Quelle sagesse! Comment pouvons-nous bien vivre dans un pays qui ne croit pas en Dieu et qui rejette Dieu? Et je trouve ça extraordinaire de voir que elle avait la vision de Dieu sur l'histoire du monde. Que nous puissions avoir, nous, la vision de Dieu sur l'histoire de notre vie. Alors oui, il y a la puissance du péché, mais il y a aussi son antidote. Alors je sais que les mamans se font du souci pour le choix, l'avenir, le travail, la vie de leurs enfants. Et je sais combien les mamans sont attristées quand elles sont face à une situation où elles sont impuissantes pour aider aux besoins de leurs enfants. Et je sais que les mamans portent dans le cœur l'enfant qui s'égare, celui qui a reçu la parole de Dieu mais qui ne s'attache pas encore, celui qui se cherche, celui qui galère, parce qu'une vraie maman veut le bonheur de ses enfants, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Dites oui, ma mère sera contente. Merci. Voilà. Et oui, c'est ça une vraie mère. Hein ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a un cœur de mère. Oui, il est esprit, hein, il se montre sous la forme d'un père. Mais c'est un père avec un cœur de mère. Si nous souffrons du péché, en réalité, Dieu aussi souffre de notre situation. Ézéchiel 18 nous dit, est-ce que j'ai désiré, c'est Dieu qui parle, hein, est-ce que j'ai désiré avant tout la mort du méchant ? Dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive ? Alors vous avez certainement feuilleté le calendrier Bonne Semence que vous avez bien accroché au mur chez vous, et vous vous êtes rendu compte que jeudi dernier, il y avait un petit commentaire sur ce texte. Alors ce commentaire disait ceci, et je vous lis, « Certaines personnes pensent que Dieu, avant tout, punit ceux qui agissent mal. Aussi cherchent-ils à le fuir par tous les moyens ou apaiser sa colère par des rites et des offrandes. » Mais dans la Bible, Dieu pose cette question. « Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant ?» Et la réponse est négative. Et même absolument négative. Même si Dieu ne passe pas à la légère sur le mal qui se commet jour après jour sur la terre, il ne jugera pas les fautifs sans leur avoir offert sa grâce. Je trouvais ça formidable et vraiment une bonne réflexion sur le fait que nous avons un Dieu qui a à cœur notre situation. Et ce qui est merveilleux, c'est que la bonne nouvelle, c'est aussi que nous avons un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oh, c'est bien, non ? Qui ne se lasse pas de pardonner. Combien de fois dois-je pardonner ? A dit Pierre à Jésus. Jésus a répondu, 70 fois, 7 fois. Et Pierre, sachant sa table de multiplication, a répondu, 490 fois. Oui. Et la 91e fois, 490 fois. Pourquoi ? Parce que le cœur de Dieu nous pardonne. Quand ton frère viendra te demander pardon, tu lui pardonneras. Commençons par une seule fois. Hein ? Ésaïe 55, verset 7, nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Vous voyez, quand on pêche, on a plutôt tendance à tenir Dieu éloigné, alors qu'il faut retourner à lui. Ça, c'est le bon chemin. Qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alors, au lieu de nous rejeter loin de sa face, Dieu a choisi de nous recevoir et de nous pardonner tout en restant un Dieu saint. Il dit au pécheur, sincère, tu peux venir. Ah là là, la rébellion de nos cœurs. Hein. Je ne peux pas quand même me rabaisser devant Dieu. Pas moi. Hein, etc., etc. Et dans le psaume 66, au verset 7, il est dit que les rebelles ne se lèvent pas. Il y a besoin de se rabaisser pour venir devant Dieu. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et il y a quelqu'un qui l'a compris. C'est l'apôtre Paul qui dit « Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc moi, je suis le premier. Et il m'a été fait miséricorde. » On ne va pas rentrer dans la compétition avec l'apôtre Paul, mais si Dieu a fait miséricorde à l'apôtre Paul, c'est qu'il peut faire aussi miséricorde à tout homme. D'ailleurs, l'apôtre Paul n'est pas resté sur son cheval à Damas en train de recevoir la vision. Hein. Dieu l'a fait descendre de son cheval, de son piédestal. Descendre. Parce que le terme grec « tomber » peut nous faire rappeler que s'il était sur un cheval. Hein. Ne me demandez pas la race du cheval, j'en sais rien. Hein. Au lieu de se lamenter, de se sentir écrasé par la culpabilité, que fait Paul? Mais il accepte la repentance proposée par Dieu. Allez, voilà. Dieu est quelqu'un qui ne se lasse pas de pardonner. Et puis la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être lavés de nos péchés. Oh là là, j'avais fait jadis, c'est bien, il n'y a pas trop de jeunes là, pas trop de scouts, c'est bon. J'avais fait jadis un camp... Scout et je m'étais pas lavé depuis des jours. Oui. Maman était pas très contente, mais bon, je lui ai rien dit. J'étais ado et croyez-moi, la première douche après ce camp, c'était exceptionnel. Hein? Ah, oui. Il est bon d'être lavé, non? Ouais. Le sang de Christ nous purifie de tout ce qui nous manque. C'est cela. Rien au monde ici-bas ne peut nuire. Ne peut nous nuire plus que notre tolérance au péché. Rien. Parce que son venin, sa puissance, son désordre, son attraction sont autant de pièges pour nous. Il y a la perle de grand prix qui fuit. Merci. C'est bien, tu l'as caché. Comme ça, personne ne la voit après. Du coup, tout le monde va se souvenir de ça. Hein. Rien au monde ne peut nous nuire plus que notre tolérance au péché. Et vous savez, on se trouve de bonnes excuses, hein. Bah, après tout, tout le monde le fait, hein. Oh, vraiment, tout le monde le fait. Ou alors, tu sais, je suis dans une situation tellement compliquée que, voilà, j'ai une autorisation. Vous savez, comme les autorisations de sortie, voilà, j'ai la feuille, je me suis auto-signé la feuille, j'ai l'autorisation de pécher, et ainsi de suite. En réalité, si nous voulons une vie remplie du Saint-Esprit et une vie victorieuse, nous avons besoin que quelqu'un brise la puissance du péché en nous. Parce que c'est ça qui nous nuit. Et Jean nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang nous donne le droit à nous qui sommes indignes d'être appelés enfants de Dieu, d'être appelés en sa présence. Alors pourquoi sommes-nous si souvent écrasés par le poids du péché ? Pourquoi sommes-nous si souvent impuissants face au péché? Pourquoi sommes-nous si découragés? Je crois parce que nous n'osons plus venir ou revenir à Dieu. Vous savez, on dit, j'ai tellement péché que Dieu ne va pas m'accepter, n'est-ce pas? Après tant de prières que je lui ai faites. Parce que peut-être en réalité, nous devenons défaitistes et nous pensons que Jésus ne peut plus rien pour nous. Vous savez, Jésus est l'agneau de Dieu. C'est pas le lion dans le sacrifice. Vous avez déjà essayé de sacrifier un lion? Bon courage, hein? Je sais pas qui sacrifie l'autre, hein? Il est le lion qui domine, hein, de Judas. Mais dans sa fonction, dans son œuvre, il est cet agneau. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un agneau a un caractère doux, humble et aimant. Celui qui a versé ce sang ne cherche pas à dominer, exploiter les autres. Un agneau, c'est un animal qui se laisse faire entre les mains de celui qui va le manipuler. En Israël, il était d'usage courant de porter un sacrifice d'un agneau, parfois d'un bouc, mais d'un agneau. Il savait que l'agneau était malléable. Un agneau ne proteste quasiment jamais. Et que fait Jésus? Quand il est mené à la croix, eh bien, il montre encore qu'il est marqué d'un caractère noble, doux et humble. Des fois, je me pose la question, est-ce que je suis marqué d'un caractère doux, humble, comme le Seigneur? Les Romains, les chefs religieux, firent de lui ce qu'ils ont voulu. Et il a accepté parce que c'était le seul moyen de briser la puissance du péché qui habite en nous. Jésus a dit, je dois aller jusqu'au bout. Injurié, maltraité, sali, rabaissé, torturé, mis à mort, il n'a pas ouvert la bouche. Pas parce qu'il ne le pouvait pas, parce qu'il l'a voulu. La méchanceté de l'homme, c'était vis-à-vis de lui, c'est-à-dire le péché dans sa splendeur. Ton péché, mon péché s'est abattu sur lui et il n'a rien dit. Et je pense qu'il disait, c'est afin de pouvoir le sauver. Quelle différence avec nous. Jésus savait que c'était pour nous délivrer de la puissance du péché. Nous étions vendus au péché, nous dit Romains. Nous étions esclaves du péché, ajoute encore Paul dans l'Épître aux Romains. Nous étions dominés, mais en réalité, le péché a perdu son pouvoir. Bien sûr, il est présent. Vous savez, Pierre Mulinengo disait cette chose remarquable. Il disait qu'il y a trois niveaux de péché, trois sortes. Il y a le péché qui part quand qui s'en va à court terme quand on se convertit. Hein. Alors, j'ai souvent assisté à des gens des quartiers difficiles, tout ça, quand ils se convertissent. D'un coup, ils disent plus de gros mots. Mais c'est pas une histoire de je fais attention de plus en dire. C'est comme ça. C'est la présence du Saint-Esprit en eux. Il y a des péchés qui sont partis comme ça quand on s'est converti. Il y a des péchés qui mettent un peu plus de temps. Et il y a des péchés contre lesquels on doit lutter toute notre vie. Et ça m'a beaucoup aidé de comprendre cela. Et je bénis le Seigneur pour les serviteurs qui sont passés ici. Nous ne pouvons pas espérer la paix et la victoire sans avoir reconnu la source de chaque péché. Nous devons implorer le Seigneur de nous montrer le péché tel que lui le voit. Et de nous faire prendre conscience que la vraie solution se trouve dans ce sang de l'agneau. Nous avons besoin de nous abandonner à lui afin que nos relations ne soient pas détruites ainsi que notre communion. Et j'avoue que souvent on ne comprend pas toujours le pardon de Dieu. C'est parce que nous, notre pardon est une exigence. Hein? On dit, voilà, je pardonne. Donc c'est un peu... Et quand Dieu nous dit, je te pardonne, qui est-ce que je dois croire? C'est pourquoi nous avons du mal peut-être à pardonner. Parce que nous avons du mal à comprendre l'amour de Dieu pour nous. Et si nous le comprenions bien, nous pourrions plus facilement pardonner. Oui, il y a une condition. Ce matin, Philippe l'a rappelé, c'est avoir un cœur vrai, un cœur sincère. Dans l'Ancien Testament, et la même condition dans le Nouveau Testament. Et j'ai bien aimé la prière de Pierre tout à l'heure, qui disait, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Tu as besoin de Jésus? Moi, j'ai besoin de lui. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es converti, mais que jamais nous ne puissions nous habituer au péché. Il y a un chant ancien de l'armée du salut qui dit, Christ suffit pour moi. Il me suffit. Si le sang de Christ suffit pour Dieu, alors il me suffit pour moi. Mon frère, ma sœur, le sacrifice de Jésus suffit pour Dieu. Il est suffisant pour toi. Pour moi, il devrait l'être. S'il l'est pour Dieu. Et puisqu'on a cité les pasteurs Pierre Bonnet et Pierre Mulinengo, bien, Richard Doulière disait aussi que c'est une lutte de chaque instant de notre vie. Et la plus grande lutte, c'est celle contre le péché. Que nous puissions seulement... face à la puissance du péché, dire « Jésus a résolu cela ». Oui, il sera présent, mais Jésus en a brisé la puissance. Il n'a plus la puissance de nous condamner. Amen. On devrait sortir d'ici en criant de joie, comme si l'équipe de l'OM avait gagné. Comment, vous n'êtes pas supporter de l'OM? Bon, on verra ça après. Hein? Ou les Verts? Ça va Bernard, les Verts? Ok. On devrait sortir de joie comme si notre équipe favorite avait gagné. Quelle que soit notre situation de péché, peut-être de découragement ou d'épreuve, peut-être d'un cœur lourd ou triste, Christ a suffi pour Dieu. Est-ce qu'il te suffit à toi? Prions. Seigneur,